Bonjour et bienvenue à Repensons la paix et la sécurité, le podcast de Stop Feeling War, une association qui s'intéresse à la sécurité, au commerce des armes et à la paix. Ce podcast est une série d'interviews avec différents activistes, chercheurs et spécialistes sur des sujets concernant les armes et notre sécurité. Oli et Alice, qui travaillent pour Stop Feeling War, discutent avec ces experts et remettent en question la militarisation avec l'aide de nos invités. Dans cet épisode, nous interviewons Sarah Rieder, d'Agir pour la paix, et Laetitia Seydoux, du Réseau européen contre le commerce des armes, sur le thème du lobby dans l'industrie de l'armement. Bonjour et bienvenue au podcast. Est-ce que Sarah, tu peux te présenter s'il te plaît?
Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Je suis Sarah et je travaille pour une petite association d'éducation permanente antimilitariste à Bruxelles qui s'appelle Agir pour la paix.
Merci Sarah. Est-ce que Laetitia, tu peux te présenter?
Oui, bonjour. Donc, je suis Laetitia et moi, je travaille donc depuis 2016 pour le Réseau européen contre le commerce des armes, ou ENAT en anglais.
Merci. Je vais commencer par vous poser une question sur le lobbying. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par définir ce que vous pensez être le lobbying et puis on va parler du concept de revolving doors ou pantouflage, je crois que ça s'appelle en français des fois. Qu'est-ce qu'on entend par cette expression? Et est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer la distinction entre lobby et plaidoyer? Je vais demander à Laetitia de commencer.
Alors, je dirais que le lobby, de manière générale, c'est le fait que des personnes ou des organisations cherchent à influencer de manière directe ou indirecte, la définition ou l'élaboration ou même la mise en œuvre de certaines politiques. Et donc, ça peut être aussi bien par la production d'informations, la proposition de modifications, l'analyse de situations, etc., l'organisation d'événements. Alors, il y en a beaucoup des types de lobby, évidemment. Et donc, l'élément important peut-être pour distinguer notamment lobby et plaidoyer, moi, je vois deux critères importants. C'est d'abord le type d'intérêt que l'on défend. Le terme lobby, il est un peu général, mais c'est vrai qu'on l'associe souvent plutôt à la défense d'intérêts privés, particuliers, donc sectoriels, un secteur industriel, un secteur économique. Et on va plutôt parler de plaidoyer pour les organisations qui défendent plutôt ce qui relève de l'intérêt général, donc les droits fondamentaux, les mouvements de paix, vont défendre plutôt des principes éthiques qui sont normalement d'intérêt pour tout le monde et non pas pour un secteur particulier.
Est-ce que, Sarah, tu veux compléter?
Oui, je pense par rapport, quand on parle du lobbying ici à Bruxelles, on estime qu'il y a plus de 25 000 lobbyistes ici, dont la plupart au service des entreprises privées. Donc, c'est une influence disproportionnée sur la politique européenne en comparaison de, par exemple, des groupes de la société civile qui font du plaidoyer. Et je pense que vraiment ce que ça fait, c'est que ça crée une chambre d'écho ici où les institutions européennes sont basées. Et vraiment, il y a un manque de la voix de la société civile plus large européenne.
Est-ce que vous avez un exemple de cet effet, ce qu'on appelle en anglais le revolving door ou pantouflage en français?
Alors, en tout cas, en matière de défense, oui, il y a quelques exemples dans le domaine de l'industrie de la défense, l'industrie de l'armement. On a plusieurs exemples qu'on peut donner. Un exemple dans un sens, c'est par exemple en 2015, il y a l'ancien expert en matière de défense de la Commission européenne, qui s'appelait Burkhard Schmidt, est passé à l'ASD. L'ASD, c'est la principale organisation de lobby de l'industrie de l'armement, donc un groupement, c'est l'Association européenne de sécurité et de défense. Et donc, après 8 ans de bons et loyaux services à la Commission, où il était considéré comme la plume pour toutes les questions liées à la défense et à la sécurité, il est ensuite passé à l'ASD. Un exemple aussi qui est très frappant et récent, c'est la nomination évidemment de Thierry Breton, commissaire français, devenu aujourd'hui commissaire français, responsable notamment de la question de la défense et de la sécurité, mais aussi de l'espace. Or, auparavant, il a été le directeur général de Atos, une grande société française et européenne, qui est très active exactement dans les mêmes secteurs dont il est aujourd'hui responsable en tant que commissaire. Donc ça, c'est vraiment des exemples assez frappants à différents niveaux. Il y a aussi des exemples dans l'autre sens. Récemment, par exemple, à l'inverse, l'ancien directeur général de l'Agence européenne de défense, donc une autre agence européenne, Jorge Domecq, après avoir été donc directeur général de cette agence, est passé très rapidement, 7 mois après, à Airbus Sécurité et Défense de la branche espagnole. Donc là, on voit que le revolving door, ça va aussi dans les deux sens. Donc, ce n'est pas seulement de l'industrie vers l'administration européenne, mais ça peut être aussi dans l'autre sens avec les mêmes effets pervers.
Vous avez parlé d'effets pervers. Quels pourraient être les effets de ces positions et rôles?
Je pense que ce lobbying des grandes entreprises, il a vraiment un impact mortel sur la vie des gens, mais aussi sur notre planète. Parce qu'en fait, ce qu'ils essayent de faire par des différents canaux d'influence, c'est d'essayer de saboter ou d'affaiblir les réglementations, par exemple sur les émissions climatiques ou sur les pesticides ou les produits chimiques. Donc vraiment, quand on essaie d'améliorer des choses, il y a les lobbies des grandes entreprises qui essayent de saboter ces efforts. Donc maintenant, dans le contexte de la pandémie, le lobby des grands pharmaceutiques essaye de bloquer la libération du brevet du vaccin, pas seulement pour le COVID, mais aussi pour d'autres médicaments. Donc, sans parler de la militarisation de l'Union européenne et le rôle que le lobby d'armement a joué sur ça, vraiment, c'est les lobbies des grandes industries sont responsables de continuer à promouvoir un modèle industriel d'agriculture, une économie extractiviste et dépendante des combustibles fossiles. Par exemple aussi, la négociation des nouveaux accords de libre-échange. Donc, c'est tout un système qui va tuer la planète, mais les gens, mais qui profite à ces grandes entreprises.
Et peut-être pour donner du coup des exemples concrets aussi par rapport à ça, un peu chiffrés, pour donner l'idée de cette proportion dont parlait Sarah, le problème de la disproportion énorme des moyens. Par exemple, l'industrie de l'armement, donc le lobbying, les activités de lobbying de l'industrie de l'armement à Bruxelles sont évaluées à minima. Évidemment, ils déclarent un budget minimal de 54 millions d'euros sur une année, sur l'année 2016 ou 2017. Donc, ça sont des chiffres officiels. On sait que c'est largement sous-estimé, puisqu'effectivement, il y a une marge de manœuvre sur les montants qu'ils déclarent, et on sait qu'ils déclarent vraiment à minima. Pour comparer, le budget du projet européen de l'ENAT, c'est 30 000 euros sur un an. Donc voilà, alors il y a d'autres mouvements de paix, mais qui sont pour la plupart dotés comme ça de montants extrêmement faibles. Donc il y a une disproportion financière. Et puis effectivement, lié au revolving door dont on parlait tout à l'heure, à ce phénomène de pantouflage, il y a aussi une disproportion de l'accès. Grâce à ce revolving door, à ce pantouflage, effectivement, tous ceux qui utilisent ce pantouflage pour passer de l'administration européenne à l'industrie et vice-versa, ils ont des réseaux et des contacts directs énormes. Donc, ça crée vraiment une sorte de toile d'araignée, comme ça, de réseau de connexion dont le monde de la société civile est très largement exclu. On n'a pas du tout les mêmes accès et donc la même possibilité de transmettre notre propre message.
Et je pense aussi qu'un problème, c'est que la plupart des gens dans les pays européens se sont très éloignés de ce qui se passe ici à Bruxelles, parce que géographiquement, mais aussi au niveau de... C'est pas très accessible, c'est bureaucratique, c'est difficile de suivre le processus de passer des nouvelles lois et réglementations. Donc, je pense qu'il y a un grand problème avec le fait qu'on ne connaît pas ce qui se passe ici à Bruxelles, mais les décisions qui sont prises ont des énormes impacts sur nos vies dans tous les pays européens.
Du coup, vous avez parlé des différents moyens, surtout Laetitia, quand tu parlais des différents budgets. Donc, on peut imaginer qu'on n'arrive pas aux mêmes finalités avec ces budgets-là. Nous, on vous demandait dans quelle mesure ces pratiques permettent d'influencer les décisions politiques, c'est-à-dire... Par exemple, au niveau européen, à quel point les lobbies de l'armement arrivent à influencer sur des résolutions? Qu'est-ce que c'est leur marge de manœuvre qui, du coup, on imagine avec ce budget et toutes ces connexions, est assez large? Et qu'est-ce qu'en face, la société civile peut faire avec ses ressources à elle?
Oui, alors, au niveau de la politique européenne, effectivement, l'influence de l'industrie de l'armement, elle est en fait très forte. Elle est peu visible, peu connue, mais elle est effectivement très forte. Et en fait... je pense que leur objectif, il est double. Donc, un premier objectif, c'est effectivement de faire en sorte qu'ils puissent bénéficier de la réglementation la plus favorable possible pour leurs activités. Et ça ne veut pas forcément dire d'avoir une réglementation européenne. L'industrie de l'armement, elle a beaucoup travaillé à éviter des réglementations européennes communes qui étaient pour eux moins profitables que les réglementations nationales. Donc, par exemple, en termes d'accès d'appels d'offres de marché public, bah, l'industrie de l'armement bénéficie d'un traitement de faveur au niveau national. Elle n'est pas forcément intéressée à avoir une harmonisation au niveau européen. Donc, le lobbying peut être aussi d'empêcher des règles européennes, pas forcément de les adopter. Ça, c'est aussi quelque chose à garder en tête. L'autre élément important sur lequel l'industrie de l'armement a travaillé depuis une grosse vingtaine d'années, voire plus, c'est de briser un peu la ligne rouge, le tabou, selon lequel le budget communautaire, donc le budget commun de l'Union européenne, ne pouvait pas financer les activités liées aux militaires. Et donc là, de manière progressive, depuis le début des années 2000, ils ont vraiment travaillé à pousser cette ligne rouge de manière progressive, et ils ont réussi, puisqu'ils ont commencé donc par obtenir que l'Union européenne finance directement la recherche en matière de sécurité. Alors, ce n'était pas militaire pur, mais voilà, sécurité et militaire, c'est un peu les mêmes entreprises, évidemment, qui travaillent dans les deux domaines, qui sont quand même fort liées. Et de là, ils ont poussé peu à peu la ligne rouge pour pouvoir financer des activités qu'on appelle duales, donc qui sont de la sécurité civile, mais qui peuvent servir aussi à des activités militaires. Et puis, très récemment, là, ils ont obtenu, donc depuis 2016, que l'Union européenne finance directement la recherche et le développement pour de l'armement militaire directement. Et donc ça a été vraiment un travail sur 20 ans, de longue haleine, qu'ils n'ont pas abandonné, jusqu'à pouvoir accéder, en fait, finalement, d'obtenir des subsides européens, tout en ayant des réglementations qui leur soient favorables.
Et je pense qu'en plus d'influencer la politique européenne pour la création, par exemple, du Fonds européen de la défense, je pense qu'une chose clé, c'est aussi comment l'Union européenne conçoit de la sécurité et la défense. Et en fait, les lobbies de l'armement, ils ont vraiment mené une politique de sécurisation des différentes questions. Donc, je veux dire de définir des choses comme soit le changement climatique, la migration, les manifestations et les luttes sociales. Ils disent qu'en fait, ça, c'est des questions sécuritaires et il faut une réponse militarisée de l'Union européenne. Et je pense que là, c'est vraiment où on voit le poids du lobby de l'armement. C'est que, par exemple, dans le contexte, encore une fois, d'une pandémie, à la place de renverser les années d'austérité et la privatisation des systèmes de santé, au moment que le Covid est arrivé en Europe, l'industrie de l'armement publiait des articles en disant, en fait, nous pouvons faire partie de la lutte contre Covid. Et je pense que vraiment, il faut changer le discours de c'est quoi la sécurité et c'est la sécurité de qui.
Il participe aussi à cadrer le débat, à cadrer le sujet. Ça pose encore plus de questions sur la transparence. Oui, on parlait du coup tout à l'heure des moyens financiers. Par exemple, j'avais lu qu'il y avait des industriels de l'armement qui organisaient des week-ends où ils invitaient des députés et ils leur offraient des goodies. Qu'est-ce qu'il y a pour convaincre d'autres personnes en soi? En plus, il n'y a pas que les ressources financières, du coup, il y a aussi toutes les connexions. Mais voilà, juste pour savoir de quels moyens ils disposent concrètement dans leurs actions. Et comment c'est mis en place?
Il y a aussi, par exemple, la création des groupes consultatifs dont les entreprises d'armement font partie. Ils publient des rapports, des études sur des questions qui les intéressent. Et aussi, comme tu disais, Alice, ils organisent des soirées et des briefings privés. Donc, quand il y a une grande loi à discuter à Bruxelles, une agenda pleine de soirées et d'événements pour essayer de convaincre les personnes qui vont prendre les décisions. Mais ça, je pense que c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a aussi la création de groupes de pression, les alliances entre les différentes entreprises et industries, et aussi les réunions informelles autour d'un verre. Il y a vraiment des canaux différents qui entrent dedans, toujours pour communiquer le même message.
Oui, tout à fait. Donc, je pense que Sarah a déjà bien fait le tour. Et donc, ce qui est important de noter, c'est que la plupart du temps, ces organisations de lobby, dans les 54 millions, donc sur une année que je mentionnais, ils ne reprennent vraiment que les activités de lobby extrêmement directes, c'est-à-dire l'heure qu'ils vont passer à discuter avec un fonctionnaire de la Commission ou un député européen d'une législation très précise. Mais il y a effectivement tout le travail en amont, d'analyse, de préparation, tout ce qui est aussi préparer le cadre général, donc tout ce travail un peu de formater la réflexion autour d'une problématique via effectivement des études, des conférences, des positions. la plupart du temps, ils ne vont pas considérer ça comme du lobby parce qu'ils vont dire « Ah, mais on ne cherche pas à influencer directement un vote sur une législation précise. » Et donc, ils excluent tout ça. Et donc, les 54 millions, ce n'est probablement la plupart du temps même pas pour inclure toutes ces activités plus générales, de cadre général, auxquelles ils participent. Et donc, effectivement, en parlant par exemple des groupes consultatifs, qui sont donc des groupes créés par la Commission européenne, mais qu'elle doit rendre publique, bah, il faut aussi avoir du temps, il faut avoir du personnel pour y participer. Donc, en tant qu'ONG, par exemple, il y a des problématiques qui se posent par rapport à ça, dont l'une, ce n'est pas la seule, mais l'une d'elles, c'est le fait qu'on n'a pas assez, nous, de personnel que l'on paye sur nos fonds propres, qui vont pouvoir passer des heures à aller à ces différentes réunions et les préparer et y discuter. Et ça, c'est bien en amont, en fait, du travail législatif. C'est souvent pour commencer à élaborer une politique, et très souvent, l'industrie ne va pas considérer ça comme du lobby parce que la législation n'est pas encore écrite et en débat. Donc c'est vraiment effectivement le genre de choses. Et alors, ça se fait aussi au niveau national. C'est intéressant de ne pas oublier que le lobby ne se fait pas que à Bruxelles, surtout dans le domaine de la défense, puisqu'effectivement, les grandes entreprises de défense nationales ont des rapports privilégiés avec leur propre gouvernement. Et donc, récemment en France, par exemple, suite au développement effectivement du Fonds européen de la défense pour financer la recherche et développement militaire, il y a eu des conférences régulières à Paris avec une dimension présentée comme académique, avec beaucoup d'intervenants de l'industrie sur ce sujet-là. Et c'est une façon de contribuer au débat, d'influencer le débat et l'évolution du débat, et donc les décisions qui vont être prises à la fin, de manière indirecte, que eux ne vont pas considérer comme du lobby. Mais pour nous, c'est du lobby, ce serait du plaidoyer. C'est pour ça que nous, nos budgets qu'on considère comme très petits, en plus, englobent vraiment toutes ces activités d'influence indirecte et de travail préparatoire que eux ne considèrent pas comme du lobby.
Je voulais vous poser la question de quels sont les dangers lorsque les mêmes individus passent d'un poste de décideur ou décideuse politique à un poste dans le secteur privé de l'armement, et quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour éviter ce genre de pratiques?
En termes de dangers, donc, on l'avait abordé un petit peu avant. Bon, en termes de dangers, en fait, c'est que cela contribue donc à la disproportion des moyens entre la société civile, on va dire, d'intérêt public et ces industries, parce que ce pantouflage leur donne un accès et une surinfluence privilégiée, puisqu'ils connaissent les rouages, ils connaissent les bonnes personnes, ils ont des réseaux, ils ont énormément, donc tout ce réseau complètement informel qui leur permet d'avoir une influence, par exemple, très tôt dans une procédure. En tant que société civile, très souvent, on découvre un peu tardivement qu'il va y avoir un nouveau projet de loi qui nous pose un problème, alors qu'eux, en fait, ils sont presque les initiateurs, en fait, ou les co-initiateurs avec les personnes au sein de la Commission, par exemple, pour proposer une loi. Mais ça peut être aussi des députés européens qui proposent de nouvelles choses. Et donc là, évidemment, ça crée une forme de sympathie, de petit monde, de petite bulle, qui rend d'autant plus difficile d'avoir des voix discordantes. Donc voilà, par exemple, nous, on avait aussi, y a aussi des chiffres qui sont publiés par lobbyfacts.eu, pour ceux qui sont intéressés d'en voir plus. Et donc, on avait vu que dans la commission Juncker, ces différents lobbies de l'industrie de l'armement avaient eu 327 réunions avec la commission. C'est énorme. Nous, on en a peut-être eu, l'ENAT pour son projet UE a peut-être réussi à en décrocher 3, et encore. Et on n'est pas considéré comme des interlocuteurs légitimes, en fait. Eux sont considérés comme des interlocuteurs légitimes parce qu'ils connaissent tellement bien le système, alors que la société civile ne va pas être forcément légitime. Et donc, ça crée un déséquilibre des intérêts qui sont représentés, qui est un danger pour le projet européen et pour la démocratie, parce que du coup, ça jette un doute, ça jette une suspicion sur la légitimité des décisions, finalement.
Cette question des lobbies, ça montre vraiment l'hypocrisie de l'Union européenne, parce qu'on parle d'un projet de paix, un projet de démocratie et des droits humains. Mais après, ce qu'on voit avec le fait, c'est que plus de 40 000 personnes se sont tuées en essayant d'arriver ici. Nous vendons des armes aux pays, par exemple, l'Arabie Saoudite, Israël, Turquie. Et vraiment, ça revient, je pense, à la question de c'est quoi la sécurité, et donc quels intérêts que l'Union européenne défend et protège. Je pense, par exemple, avec la militarisation des frontières, l'agence des frontières européennes, Frontex, elle a un budget de 5,6 milliards d'euros pour la même période que le Fonds européen de la défense. Et vraiment, cette agence, c'est un acteur clé de la militarisation des frontières. Et je pense qu'il y a un cycle un peu pervers où les mêmes entreprises qui vont vendre l'équipement à Frontex, par exemple des navires, les hélicoptères, les drones, tout le système de sécurité des frontières sont les mêmes entreprises, par exemple Airbus, Thales, Leonardo, qui profitent et alimentent la violence qui peut obliger les gens à se déplacer et à migrer vers l'Europe. Donc, je pense, avec le commerce des armes et aussi la question des frontières, on voit un peu la crise de la politique européenne et le rôle que ces entreprises jouent dedans.
Pour l'Union européenne, moi, je ne connais pas d'agence ou d'institution européenne qui soit chargée de contrôler tout ça.
Alors ça, effectivement, c'est un des problèmes par rapport à comment on pourrait contrer ce problème du revolving door, c'est qu'effectivement, il y a un manque d'organismes indépendants qui puissent faire ce contrôle. En théorie, en fait, en pratique, disons, ce qui se passe, c'est que c'est la Commission européenne ou l'Agence européenne de défense, si on reprend l'exemple de Jorge Domecq que j'avais donné au début, qui sont censés autoriser leur personnel lorsqu'ils arrivent en fin de mandat, lorsqu'ils quittent l'institution. Ils sont censés leur donner une autorisation s'ils vont dans un emploi, donc dans les 2 ans qui suivent la fin de leur mandat à la Commission ou à l'Agence européenne de défense, par exemple, ils doivent demander une autorisation pour un nouvel emploi, pour qu'effectivement la Commission ou l'Agence européenne de défense ou d'autres agences européennes puissent évaluer s'il y a effectivement un risque de conflit d'intérêts ou pas. Le problème, c'est que les évaluations, elles sont extrêmement minimalistes. Et donc, il y a effectivement, le problème, c'est que déjà, les contrôles en interne sont appliqués de manière assez laxiste. Demander l'autorisation, ça veut dire que pendant 2 ans, voire 3 ou 5 ans, vous ne pouvez pas prendre un emploi dans le même secteur dans lequel vous avez travaillé pour la Commission ou pour l'Union européenne de manière générale. Ça devrait vraiment être un gel, on appelle ça un cooling off en anglais, donc vraiment l'impossibilité d'intégrer le même secteur. Donc ce serait déjà mieux qu'une simple autorisation, parce que du coup il y a toujours des raisons pour dire que oui, il y a un potentiel risque, mais la personne s'engage à ce qu'il n'y en ait pas. En gros, c'est un peu ça l'idée, c'est qu'ils s'engagent à ne pas utiliser leur réseau ou à ne pas rencontrer les personnes, etc. Mais ce n'est pas du tout suffisant, et surtout, il n'y a aucune mesure de sanction. Aucune mesure de contrôle externe pour ce faire. Le Parlement peut contrôler certaines choses, mais ils ne peuvent pas prendre des sanctions. Ils peuvent éventuellement demander à avoir des informations plus précises, ils peuvent contester, ils peuvent dénoncer un cas, mais ils ne peuvent pas l'empêcher.
C'est une question de rendre visible et de dénoncer tout ce qui se passe ici à Bruxelles et, comme Laetitia disait, aussi au niveau national. Donc, comme nous disons, le monde du lobbying, c'est très opaque, c'est compliqué, c'est pas très accessible aux gens dans les États membres de l'Union européenne. Et je pense que c'est vraiment une question de, en fait, c'est quel type de société est-ce que nous voulons et comment est-ce que nous pouvons nous organiser de pas donner le pouvoir de la politique européenne à ces entreprises. Pour moi, c'est vraiment une question de, OK, c'est quoi la complicité européenne dans ces choses terribles qui se passent au niveau de nos pays et aussi les entreprises européennes.
Je vais continuer avec la question. Et quels sont les impacts sur la démocratie et sur les citoyens et les citoyennes? Et je vais un peu contextualiser parce que du coup, en parlant du contrôle européen, etc., Ça m'a rappelé que, par exemple, à la fin, c'était en septembre 2020, il y a eu cette histoire en France où l'ancien Premier ministre Édouard Philippe a rejoint le conseil d'administration d'Atos et ça intervenait alors que Thierry Breton avait été nommé par le gouvernement du coup d'Emmanuel Macron avec Édouard Philippe en Premier ministre. Il avait été nommé du coup comme commissaire. Et ensuite, ça faisait un peu retour à l'envoyeur avec, du coup, Édouard Philippe qui quittait la fonction de Premier ministre et qui rejoignait le conseil d'administration d'Atos. Et moi, alors que je travaille un peu dans ce milieu quand même, j'ai appris l'information au détour d'un post Twitter publié par un journal un peu obscur. Et il y a cette agence française qui s'appelle la Haute Autorité à la vie publique, à la transparence de la vie publique, qui avait du coup émis un avis favorable en disant que ce n'était pas un problème, qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts et qu'il pouvait parfaitement passer de Premier ministre au conseil d'administration d'Atos avec tout ce background avec Thierry Breton. Et c'est vrai que j'avais regardé les commentaires et je me souviens de tous ces gens qui disaient... Bon, après, les commentaires sur Internet, c'est souvent, en termes de sociologie, ce n'est pas très représentatif. Mais ils disaient tous, bon, bah, ce n'est pas très étonnant, de toute façon, ça se passe toujours comme ça. Et il y a un peu ce désabus qui déjà intervient au niveau national. Et du coup, je me dis au niveau européen, qu'est-ce que concrètement ça fait sur la vie démocratique? Parce qu'il y a déjà un peu cette distance des citoyens européens par rapport à ce qui se passe à Bruxelles. Il y a tout ce que vous avez dit sur le fait qu'on ne sait pas en plus ce qui se passe avec les lobbies. Et en plus, quand il y a des événements comme ça qui arrivent et qu'il n'y a pas de contrôle, on peut se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe mieux? Au final, l'aspect démocratique, on le perd un peu en chemin.
Je garde espoir dans le fait que tous les grands changements dans l'histoire au niveau sociaux sont venus à cause de l'organisation de la société civile et des mouvements de masse. Donc vraiment, je pense qu'on est face à un système pourri et mortel. On connaît tous l'impact du changement climatique, mais on a aussi une opportunité et c'est à nous de nous organiser. Pour nous, il faut oser avec la vision de quel type de société est-ce que nous voulons. Et vraiment de dire, en fait, je ne veux pas que mon pays produit des armes et vend et qu'elles soient utilisées dans les endroits, par exemple, dans la guerre au Yémen. C'est l'organisation et la société civile. C'est là où sont les réponses.
Oui, c'est clair que de toute façon, c'est un peu le cercle vicieux où ça peut sembler contradictoire, mais effectivement, une des solutions pour préserver la démocratie au niveau national et européen, c'est justement que les citoyens s'engagent plus d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas, voilà, soutiennent ceux qui s'y engagent. Mais surtout, je pense que ce qui est important de garder en tête, c'est que l'Union européenne reste quand même essentiellement le reflet des politiques nationales. Et donc, si l'Union européenne, à un moment donné, prend une décision, enfin, la décision, elle est prise par nos députés européens et par nos chefs de gouvernement au sein du Conseil. Ce n'est pas la Commission qui décide, ça il faut quand même rappeler, c'est quand même un élément important, elle peut faire des très mauvaises propositions, mais malgré tout, c'est quand même pas elle qui les vote. Et donc, nous, on élit nos députés européens, ils sont responsables devant nous, et on élit nos gouvernements. Et je pense qu'il faut quand même bien comprendre cette liaison entre les deux, parce que souvent, on a tendance du coup à penser, tout ça, c'est un peu la faute de la Commission et de l'Union européenne. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et en même temps plus simple, c'est-à-dire que changer notre politique au niveau national va aussi changer la politique au niveau européen. C'est-à-dire que voilà, un leader va quand même, surtout français, donc là, on s'adresse plutôt à un public français, sachant le rôle de la France dans l'Union européenne, c'est clair que en fonction de l'orientation politique du gouvernement français, ça va influencer l'orientation de l'Union européenne. Et il faut bien garder en tête que souvent les gouvernements nationaux font au niveau européen ce qu'ils n'oseraient pas faire au niveau national. Parce que du coup, ils peuvent dire, c'est pas nous, c'est Bruxelles. Mais Bruxelles ne prend pas de décision. Les décisions, ce sont nos chefs de gouvernement et nos députés européens que nous, on élit. Et le Parlement européen, malgré tout, reste avec un pouvoir beaucoup plus limité qu'un Parlement national. Ça aussi, c'est une forme de limitation de la démocratie européenne. La question, elle est à la fois plus complexe en même temps plus simple, c'est-à-dire c'est aux citoyens de se mobiliser pour défendre effectivement les politiques qui lui semblent les plus correctes aux deux niveaux, au national ou européen.
Et je pense que lié à ça, il faut vraiment une convergence de lutte, non? Il faut comprendre comment le système est lié, mais que c'est les mêmes intérêts qui sont défendus par l'industrie agro-industriel, par exemple, que l'industrie des combustibles fossiles et le rôle que les entreprises de sécurité et armement jouent dedans tout ça. Donc vraiment, maintenant, c'est le moment de voir l'intersection entre les différentes luttes et de créer des alliances et de nous soutenir aussi clairement d'avoir la solidarité internationale et voir la responsabilité et complicité de nos pays et l'Union européenne dans tout ça. Une meilleure sécurité des individus, c'est une sécurité qui privilège la vie des personnes et du planète aussi. Donc une sécurité qui investisse dans la protection sociale, la santé publique, l'éducation, le logement social et la transition vers une économie verte. C'est une sécurité qui mène à la régularisation des personnes en migration. Je pense que presque tous les pays ont eu des moments où ils ont régularisé des migrants. Donc, c'est une question de volonté politique. Je dirais, c'est une sécurité qui mène à l'abolition de notre régime frontalière, qui arrête la production et la vente d'armes.
Oui, effectivement, ce ne sont pas les armes qui font la guerre en tant que telles, mais elles les nourrissent énormément. C'est-à-dire qu'elles nourrissent et elles conditionnent le type de réponse qu'on va donner, en fait. On rentre dans ce qu'on appelle un peu le dilemme de la sécurité, le cercle vicieux, que lorsqu'un pays semble être menaçant, le pays d'en face va s'armer. Du coup, il est considéré comme menaçant, donc le pays d'en face va s'armer, etc. Et on rentre dans une spirale de l'armement qui va marginaliser les solutions non violentes. Et donc le dialogue, la diplomatie, le travail sur les causes profondes, ça les marginalise parce que ça, quelque part, ça conditionne un peu notre perspective. Ça les marginalise parce qu'il faut évidemment justifier d'avoir mis autant d'argent dans les armes. À un moment donné, on va finir par les utiliser, sinon pourquoi y mettre autant d'argent là-dedans? Et puis évidemment, ça détourne des ressources. Tout l'argent qu'on aura mis dans l'achat d'armes ou dans la production d'armes, bah, c'est de l'argent qu'on ne met pas à résoudre les vraies causes profondes des conflits. Donc effectivement, l'accès à la terre, les problèmes climatiques, etc. Il y a cet aspect, je dirais, assez concret d'éléments précis comme les ventes d'armes dont on sait que ça contribue aux guerres. Et puis, il y a effectivement le fait de changer un peu le narratif sécuritaire, ce dont Sarah parlait au début, donc cette approche aujourd'hui de sécuritaire de quasiment tous les problèmes, qui en fait est surtout favorable à l'industrie. Parce que qui dit approche sécuritaire dit technologie de sécurité, et donc dit recherche, développement, production et vente de matériel qui profite à l'industrie. C'est vraiment ça l'objectif derrière, c'est pour l'industrie de pouvoir faire plus de profit. Et évidemment, il faut vraiment beaucoup travailler pour expliquer, pour que les gens gardent bien en tête que le sécuritaire, ce n'est pas la sécurité humaine. Et donc, le paradigme et le slogan maintenant d'une Europe qui défend et qui protège, avec des moyens de technologie, de sécurité et militaire, ce n'est pas du tout une Europe qui va nous apporter à nous la sécurité humaine au sens de préservation des droits sociaux, vie digne, accès à la santé, à un environnement sain, accès à la terre, à l'eau. Il faut travailler à la fois sur ces aspects vraiment pratico-pratiques et ces aspects vraiment du discours dominant qui est en train de se disséminer dans la société pour nous faire quelque part accepter que la solution sécuritaire serait la seule à même de résoudre des conflits. Or, on sait très bien qu'une vraie résolution des conflits à long terme, c'est quand on résout les causes profondes.
Seulement pour dire que pour les gens qui veulent s'organiser, il y a plein de groupes locaux, d'actions, de campagnes. Laetitia et moi, on fait partie du réseau européen contre le commerce des armes. Il y a aussi les internationales résistantes à la guerre et aussi plein d'autres groupes liés à des causes de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui.
Effectivement, moi, j'encouragerais les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient en connaître un peu plus ou commencer à agir, de effectivement voir quels sont les mouvements de paix actifs dans leur pays. Et donc sur le site de l'ENAT, enat.org, il y en a quelques-uns, mais effectivement il y en a beaucoup d'autres qui n'y sont pas, qui valent la peine. Et comme disait Sarah, je pense que c'est très important aussi cette convergence des luttes, c'est-à-dire que tout engagement aussi pour lutter contre le changement climatique, pour un environnement plus sain ou pour contrer les politiques migratoires sécuritaires sont une façon aussi de contribuer de toute façon à lutter contre cette sécurisation, ce narratif sécuritaire. Sinon, il y a une publication qui va sortir fin juin normalement, qui a été coécrite par différents membres de l'ENAT. Pour ceux qui voudraient vraiment en savoir plus sur le processus de militarisation au niveau de l'Union européenne, donc comment l'Union européenne se militarise, en tout cas, non pas forcément en termes d'avoir une armée, mais en tout cas en termes de politique favorable à l'industrie militaire et en termes d'approche sécuritaire. Donc, il y a une publication qui va sortir fin juin, publiée par la Fondation Rosa Luxembourg, mais écrite par différents membres de l'ENAD.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Repensons la paix et la sécurité. Nous espérons que vous l'avez trouvé instructif. Et un grand merci à nos intervenantes Sarah Reeder, d'Agir pour la paix, et Laetitia Sédou, du Réseau européen contre le commerce des armes. Stop Feeling War vous invite à venir voir notre exposition « Sans armes, citoyens et citoyennes » sur la sécurité et la militarisation à Paris, à la Botica, entre les dates du 7 octobre et du 10 octobre. Venez découvrir comment la militarisation, les dépenses militaires et bien plus encore vous impactent. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux @StopFeelingWar, StopFeelingWar, sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. Merci, au revoir.